Salut les auditrices et les auditeurs, c'est Greg. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce troisième épisode de la deuxième saison du podcast Transition. Dans cet épisode, on va revenir quelques semaines en arrière sur le parcours du marathon de Boston. Et je ne serai pas seul, puisque dans cet épisode, vous découvrirez également deux autres invités qui ont couru ce marathon également avec moi. Et on va revenir en détail sur cette course. Juste avant de commencer, si le podcast vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Vous laissez des étoiles en fonction de votre appréciation du podcast, idéalement évidemment 5 étoiles, et puis vous laissez un petit commentaire, ça permet de faire connaître le podcast, et puis pour moi, d'avoir un retour sur les épisodes que je vous propose dans le podcast Transition. Voilà, sans plus tarder, on retrouve l'épisode du jour, et je vous présente mes deux invités pour parler de ce marathon de Boston. Et donc maintenant, on est à quelques semaines de ce marathon de Boston. Ça fait à peu près 2 semaines qu'on est rentré. Et en tout cas, 2 semaines qu'on a couru, pas tout à fait 2 semaines qu'on est rentré. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Steve et Mathieu dans ce podcast qui ont couru donc avec moi ce marathon qui faisait partie du même groupe organisé par le tour opérateur suisse romand sur ce marathon. Steve et Mathieu, merci d'avoir accepté de venir reparler de ce marathon de Boston dans le podcast.
Mais merci, salut à toi, avec plaisir. C'est cool de se retrouver 2 semaines après.
Salut, merci à toi.
Les auditeurs très fidèles qui avaient écouté le podcast de Nakan à l'époque vont se souvenir de Steve qui avait participé à notre hors-série sur l'Ironman de Thun en pleine épidémie de Covid. Il était venu nous parler un petit peu de sa préparation, puis ensuite de sa course de l'Ironman de Thun. Il est de retour avec nous aujourd'hui pour débriefer du marathon de Boston. Et puis, Mathieu, bah toi, tu fais ta première apparition dans le podcast. Bienvenue, Mathieu. Et bah voilà, tu faisais partie aussi du groupe de Tourisme pour tous qui a participé à ce marathon de Boston. Je vais peut-être commencer avec toi, du coup, Mathieu, avant d'aller dans le détail de cette course. Qu'est-ce qui t'a motivé à traverser l'Atlantique pour aller faire le marathon de Boston cette année?
Alors moi, mon principal challenge, on va dire, c'était de réussir ces 6 majors. Donc, ouais. C'est mon 5e. Et il ne me reste plus que Tokyo, comme la plupart des gens, on va faire ça. Et puis voilà, quoi. C'était ouais, ça qui ouais. me motivait. Et puis, c'est clair, ça a des mythiques que je voulais absolument aussi faire une fois.
Mm-hmm. Ouais, il y a un petit peu ces deux aspects. Pour ceux qui sont pas familiers, donc il y a vraiment 6 major marathons au monde. Il y a Londres, Berlin, Chicago, New York, justement Boston, et puis tu l'as dit, Tokyo. Et le graal des marathoniens, c'est de les faire les 6 et d'obtenir la fameuse médaille de finisher des 6 majors. Voilà, ça fait un de plus, il t'en reste plus qu'un, du coup.
Exactement, plus qu'un.
Bien, bien, bien. Et Steve, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à aller à Boston pour faire ce marathon?
Alors, moi, je pense que c'est pareil, c'est la raison principale, c'est d'aller chercher les majors marathons. Mais avant l'automne passé, quand on a commencé à en parler avec toi, Greg, et puis Christian, j'en avais en guillemets que 3 sur 6. Donc, on pourrait se dire, 3 sur 6, c'est la moitié. Donc, tu te dis, il en reste encore 3, ça fait beaucoup, ou il en reste plus que 3. Donc, je m'étais encore pas tout à fait décidé d'aller chercher les 6, même si ça me trottait un peu dans la tête. Donc, en sachant que toi et Christian étiez inscrits, je me suis dit, Boston, ça va être le 4e. Maintenant, il m'en reste plus que 2, Chicago et Tokyo. On connaît un petit peu les difficultés à trouver des dossards pour Tokyo, donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà, en ayant déjà fait 2-3, enfin les trois majors, New York, Londres et Berlin, c'est vrai que la motivation d'aller sur Boston était assez grande quand même. Et puis le fait que ça soit le plus ancien marathon, je pense que c'est un marathon qu'il faut avoir dans son escarcelle, dans son coffre à podium.
Ouais, alors je te rejoins tout à fait là-dessus. Hein. Boston, c'est mythique dans le sens où c'est quand même le marathon qui est organisé depuis le plus longtemps chaque année. Donc, c'est le marathon annuel qui est le plus vieux de la discipline. Et donc du coup, il fait partie du mythe. Il y a un autre élément qui fait le mythe de Boston, c'est que jusqu'à il y a pas longtemps, il fallait absolument avoir un temps qualificatif pour aller faire cette course. Donc c'était pas une course qui était donnée à tout le monde. Les temps qualificatifs sont assez exigeants hein, pour participer à Boston. Et c'est que récemment que des coureurs lents comme moi peuvent aller y participer grâce à des dossards qui sont attribués aux tour opérateurs internationaux. Mais c'est clairement une course, voilà, quand on en parle comme ça, le marathon de Boston, c'est quand même un peu un mythe. Donc tout ça mélangé avec cette stratégie marketing quand même un peu de Abbott, qui est le grand sponsor des major marathons, d'essayer de faire courir les six, ça fait des bonnes raisons d'aller. Puis bon, moi j'aime toujours bien voyager aussi dans le cadre de ces déplacements sportifs, découvrir des villes, découvrir des endroits. Et puis là, c'était vraiment une chouette découverte aussi, la ville de Boston. Je pense que pour vous aussi, on n'y est pas resté très longtemps. Même pour moi, c'était une bonne surprise.
Exact. Je connaissais pas non plus Boston. Je savais qu'on serait un groupe super sympa, ça s'est confirmé. On a pu faire deux, trois autres choses dans le cadre de ces 4-5 jours de séjour. C'était vraiment sympa. Et puis, super ambiance. Donc, une réussite, ce séjour.
Pour moi, c'est aussi la même chose. Il y avait mon épouse Céline qui était aussi là avec. Ça nous faisait un peu des vacances. Et puis, franchement, c'était une super belle ville, Boston, à visiter. Et puis, non, franchement, beaucoup de plaisir.
Mmh. Bon, ben voilà. Si vous avez l'occasion d'aller à Boston, pour le marathon ou pas, c'est une chouette destination en tant que ville américaine. C'est un peu un New York à taille humaine, moi, j'avais trouvé. Ça ressemble un peu au niveau de l'architecture, du bord de mer, des grandes avenues, etc. Mais... C'est pas aussi gigantissime, mais voilà, moi je trouvais ça très très chouette. On va revenir bien évidemment sur la course elle-même, mais peut-être avant, un marathon, ça se prépare. Souvent, il y a des aléas dans la préparation, souvent on choisit un plan d'entraînement, puis au milieu on se dit, tiens, est-ce que c'est le bon plan? Est-ce que c'est un truc que je ne serais pas en train de me foirer ma course? On va revenir un petit peu sur cette préparation. Mathieu, comment est-ce que tu as préparé ce marathon de Boston? Et puis, est-ce que tu as fait une préparation complète? Est-ce que tu as enchaîné ça avec des courses? Comment tu as abordé le fait de venir faire ce marathon?
Alors, j'ai fait une préparation de 10 à 12 semaines, on va dire classique de marathon, entre 4 à 5 entraînements par semaine. J'ai eu une course de préparation qui est le SMI du CEP à Courtaillot. Et puis un 10 kills à Bremgarten en février, fin février.
Okay.
La préparation s'est assez bien déroulée jusqu'au dernier mois avant la course. Et puis j'ai été un petit peu embêté avec un adducteur et puis une inflammation sur la cuisse, donc intérieure, gauche. Et puis ça m'a un peu perturbé dans ma préparation. Ça s'est, pour dire, pas aussi bien déroulé que les deux derniers marathons que j'avais fait, Florence et puis Amsterdam. Donc j'ai dû un petit peu adapter la préparation, mais je pense qu'on en parlera encore plus tard, mais je pense que je l'ai un peu payé pendant la course.
Forcément, mais c'est toujours compliqué hein, de faire des préparations parfaites entre la vie professionnelle, la course, les blessures, les impératifs du quotidien, la météo, parce que là on prépare quand même un marathon qui a lieu en avril, donc ça veut dire que si tu fais un rétro-planning, tu t'entraînes depuis décembre. Et donc, du coup, chez nous, on peut avoir des hivers un peu compliqués au niveau de la météo. Et voilà, c'est pas toujours évident. Juste, petite question, est-ce que tu avais regardé le profil un peu du marathon de Boston? Est-ce que tu avais fait une préparation un petit peu spécifique? Parce qu'il est quand même un petit peu particulier, ce marathon.
Alors, oui. Et puis, j'en avais discuté avec mon coach. Mais je vais être honnête avec toi, je pense que je l'avais un peu sous-estimé.
On va largement revenir là-dessus. On va très largement là-dessus, revenir là-dessus. Ça
n'a pas été la meilleure surprise. Hein.
Ouais, je vois Steve qui rigole aussi. Steve, toi, comment est-ce que tu as préparé ce marathon de Boston?
Alors moi, j'ai un peu commencé les marathons sur le tard. J'ai eu la chance d'aller en 2010 à New York pour mes 40 ans. Et puis, en fait, je me base sur un fichier Excel relativement simple, avec un peu comme Mathieu, un entraînement sur 10-12 semaines, par contre à 4 entraînements par semaine. Et puis, généralement, j'ai de la peine à tenir les 4, j'en fais plutôt 3. Donc, avec quand même une séance VMA, une séance seuil et puis une sortie longue. Après, on va dire que j'ai eu différents résultats avec cet entraînement, avec ce fichier Excel. On va dire que globalement, ça me convient assez bien. Mais effectivement, comme tu mentionnais avant, c'est que ben, Boston, c'est en avril. Et puis, j'ai pu comparer mes performances entre un marathon de printemps et un marathon d'automne. Et puis, je pense qu'il y a clairement une différence. C'est largement plus facile d'être prêt en septembre, octobre, voire même novembre, mm-hmm. parce qu'on a toute la saison derrière nous. Et puis, je confirme que j'ai eu même à trouver de la motivation à aller m'entraîner rien que 3 fois par semaine. J'ai eu de la peine à tenir ce rythme. Et puis après, je pense pas que la préparation a été optimale. Par manque de temps et de motivation. Et puis en plus, j'ai fait un petit peu la bêtise d'aller faire un peu de badminton comme ça pour faire un peu autre chose. Et puis, je me suis blessé aux ischios et aux fessiers droites, ce qui m'a un peu freiné dans ma préparation course à pied.
Un petit peu la même chose que Mathieu, du coup, au niveau de la préparation, un petit peu bloqué par une blessure sur la fin. Et puis même question que pour Mathieu, est-ce que tu avais regardé le parcours, le profil de ce marathon? Est-ce que tu avais fait des choses spécifiques par rapport à ça?
Alors on va dire non, je l'avais un peu regardé sur le site sans vraiment faire gaffe. Après, au vu de ce que j'avais entendu, je savais qu'on partait d'une altitude plus haute que l'arrivée. Donc j'ai souvent entendu « Ah ouais, c'est un marathon qui descend, c'est roulant ». Bon, ça va, alors ça va être facile. Eh ben non, je crois qu'on s'est tous fait avoir sur ce profil de marathon.
Ouais. Écoute, on va y arriver gentiment à ce profil de marathon, justement. On arrive à Boston et puis là on va chercher nos dossards à l'expo et puis on revient à l'hôtel et là on a un coach hein, Olivier qui nous accompagne, qui nous fait un briefing le jour avant la course et puis là il nous parle de ce profil. Il n'a pas dit des choses qui m'ont surpris particulièrement par rapport à ce profil, mais quand même quelques petits avertissements. Il a dit « Attention, le départ est plus haut au niveau de l'altitude que de l'arrivée. Attention à la météo, ça on le savait aussi, c'est quasiment une ligne droite. Donc si ça souffle dans le dos, c'est favorable tout le long. Si ça souffle dans la figure, c'est défavorable tout le long. » Il a dit que la météo s'annonçait assez bonne, assez optimale même pour courir un marathon. Les températures annoncées étaient à ce moment-là encore des prévisions qui effectivement laissaient présager d'une course dans de bonnes conditions. Et puis après, il a dit, mais on me dit souvent, Boston, que c'est une course. On a l'impression, quand on regarde le profil, que c'est une course en descente. Puis quand on le court, on a l'impression qu'on monte tout le temps. Et on arrive dans cette zone de départ. C'est comme tous ces grands marathons. Hein. Il y a un grand village de départ. On doit pas mal marcher pour se rendre sur la ligne. Et alors, j'imagine que vous avez vécu la même chose que moi. C'est-à-dire qu'on arrive sur cette ligne, ça commence à partir. On déclenche le chrono sur la ligne de départ. Et puis, tout de suite, ça descend. Ça descend de manière assez cool hein, pour le début d'un marathon. On se met en mouvement alors que c'est vraiment une petite pente descendante tranquille. Mais moi, j'étais dans des bouchons en permanence. Et j'ai dû slalomer entre les autres coureurs pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, c'est une descente, mais au départ, on n'en profite pas. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose.
Alors, moi, j'ai exactement vécu la même chose. C'était vraiment compliqué de pouvoir courir. En plus, moi, je visais quand même un temps dans les 3h15. J'avais fait 3h20 à Amsterdam, puis je pense que j'avais largement ça dans les jambes. Ouais. Seulement sur ce parcours, et puis avec les conditions qu'il y avait, c'était pas possible. Et aussi, à paramètre, je trouve qu'il est difficile, c'est de partir vraiment dans un bloc où tu cours avec des gens qui courent en 4h, 4h30, 5h. Après, 1,5 km, ça remonte. Il y en avait déjà qui s'arrêtaient puis qui marchaient. Mm-hmm. Donc ça, je trouve, pour avoir ton rythme et puis te poser, c'est vraiment hyper compliqué. Après, sur cette course-là devant, je pense que même en étant parti dans le bon bloc, j'aurais sûrement pas fait un bon temps. C'était pas mon jour. Et puis la chaleur, c'est pas pour moi. Donc ça, c'est un autre paramètre. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est compliqué de partir comme ça, de voir slalomer, après de relancer, te dire pars trop vite parce que tu vas te flinguer. Et puis voilà quoi.
Ouais, mais nerveusement, on laisse quand même de l'énergie. Hein. Moi, j'ai vu à essayer de lutter quand ces personnes qui nous ralentissent et dans lesquelles on doit slalomer, c'est quand même compliqué. Steve, un peu pareil?
Ouais, c'est pareil pour moi. Si je reviens juste un petit peu, une ou deux heures avant le départ, c'est vrai que le truc était sympa, c'était qu'on soit amené depuis le centre de Boston par des bus scolaires. Mm-hmm. Mais le trajet était quand même plus long que prévu. D'ailleurs, on s'est fait la réflexion grecque parce qu'on était assis l'un à côté de l'autre. Ouais, ouais. On imaginait plutôt de trajet entre 30 et 40 minutes, puis je pense qu'on a fait largement plus qu'une heure. Et puis du coup, on est sorti du bus, on était un petit peu, alors pas tendu, mais on était un peu pressé. On avait un besoin urgent à faire aussi, un besoin aussi naturel. Ouais. Qui nous a certainement consommé un petit peu d'énergie. Après, il faut arriver sur place, se changer, se mettre un peu de crème parce qu'il y avait pas mal de soleil. Après, on marche jusqu'à la ligne d'arrivée de départ. Et puis, effectivement, comme on était inscrit via un tour opérateur, je pense qu'on était effectivement dans les derniers blocs. Et moi, j'ai eu le même problème que vous pour prendre mon rythme. Je pense que les 8, voire même les 10 premiers kilomètres, j'ai beaucoup dépassé de gens. Et ce qui consomme pas mal d'énergie pour trouver l'allure qu'on voulait prendre dès le départ.
Tu fais bien de le dire, hein, c'est vraiment le tour opérateur a des dossards pour Boston maintenant, mais on part vraiment de l'arrière de la course si on n'a pas un temps qualificatif. Si on a un temps qui rentre dans les qualificatifs de Boston et qu'on a un dossard tour opérateur, on peut partir dans son bloc de départ correct. Mais là, c'était pas le cas. Et donc, du coup, on est parti, nous tous, dans les derniers blocs. Et puis maintenant, je vais juste revenir sur les conditions météo. Donc Olivier, notre coach, notre accompagnateur, nous dit les conditions seront bonnes. On était dans le parc pour aller prendre ces fameux bus scolaires le matin pour aller là-bas. Puis moi, je te fais la réflexion, Steve, il fait déjà chaud. On avait mis des survettes, on avait mis des trainings qu'on voulait jeter juste avant le départ, comme ça se fait sur ces grands marathons. Et là, moi, j'ai déjà quasiment tombé la veste avant même de prendre le bus, quoi, parce qu'il faisait déjà, chaud. C'était une crainte, ça s'est transformé en réalité. Le soleil tapait fort, les nuages se sont dissipés et il a tout de suite fait vraiment très chaud sur cette course. Alors, quand on dit il fait 18, 19, ressenti 22, peut-être quelque chose comme ça, parce qu'on avait un vent légèrement dans le dos, donc du coup pas de rafraîchissement sur cette course, on peut se dire ouais, 22 degrés, ça va. Le problème, c'est qu'on vient d'une préparation complète où on s'est entraîné à 8 degrés, quoi. Et donc voilà, ça fait un choc thermique qui a très très rapidement fait que je me suis arrêté à chaque ravitaillement. Et puis après on découvre ce parcours et son profil atypique. Mathieu, comment t'as vécu ce marathon de Boston? Je te laisse peut-être nous raconter un peu comment t'as vécu ça de l'intérieur.
Moi, je rejoins Steve aussi sur quelque chose que j'ai pas dit avant. C'est honnêtement, c'est vrai que je pense que c'est plus difficile de faire une préparation en avril qu'en automne. Je me sens aussi beaucoup plus à l'aise, moi, en automne. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu à ça. Puis, je me suis dit que si j'allais chercher des temps sur marathon pour moi, je vais vraiment mettre l'accent sur des marathons qui sont plus en automne. Et puis, surtout, pas avec le déplacement. Parce que le déplacement qu'on a, je trouve que c'est un paramètre qu'on discute pas non plus énormément, mais je pense que ça nous bouffe beaucoup d'énergie. C'est quand même plusieurs heures de vol, et puis moi, à chaque fois, franchement, que je suis allé aux États-Unis, ça a été quand même assez compliqué. Donc je pense que le décalage et les heures de déplacement, on n'est pas non plus pendant une semaine sur place avant la course, pour récupérer, c'est pas évident ça. Après, pour la course même, c'est clair que moi, je me rappelle que j'ai joué pendant des années du foot quand même à un assez bon niveau. À chaque fois qu'on faisait les premiers matchs, je ramassais et puis j'avais des crampes. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour la course. J'ai vraiment souffert du chaud, quoi. Et puis, je sais que je fonctionne très mal aussi là-dedans. Je suis beaucoup plus un coureur qui est à l'aise quand il fait 8, 12 degrés et puis même à la limite qu'il pleut un petit peu. Et là, j'ai vraiment aussi souffert tout le long, quoi. À chaque ravitaillement, j'allais, je me rafraîchissais, je mettais de l'eau dans le dos, sur la tête et tout. Et puis c'est vraiment compliqué à gérer, ça. Parce que j'avais aussi bien préparé mes gels, j'avais des pilules de sel aussi avec. Mais j'ai quand même à 25, 30 kilos, à 30 kilos, j'ai crampé. Donc c'est compliqué après de faire 12 kilos comme ça et puis de te motiver pour finir. Après tu vois que t'es pas dans ton objectif, tu dois aussi refaire le mental autrement puis réactionner ça sur autre chose. Quand même prendre un petit peu de plaisir, aller, on a quand même de la chance d'être là-bas, on est en bonne santé et puis ça c'est aussi plus important. Il y en a des qui peuvent pas courir.
Ouais, ouais,
donc
ouais.
On se motive sur ça, puis on va chercher la médaille, et puis c'est ça qui est le plus important, quoi.
Mmh. Ouais. Mais spécifiquement, bah, ce parcours, il était marqué comme étant un peu accidenté. On nous a dit attention, au 30e borne, il y a une grosse montée, etc. Et puis de l'intérieur, tu as vécu ça comment ?
Alors, moi, j'ai plus souffert. Je crois que c'est une des courses les pires que j'ai eues. Mm. Ça a été très difficile pour moi. Et puis, j'ai moins souffert justement dans un marathon comme à New York, qui est aussi réputé pour pas être très, très facile, où il y a des ponts, il y a beaucoup de dénivelé et tout. Et puis là, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment pas évident comme marathon. Mm. Et j'ai la sensation, justement, on croit que la première partie, elle est facile, mais le premier semi, je trouve qu'il est pas du tout facile. Ouais. Et puis, on use déjà beaucoup, beaucoup d'énergie là-dessus. Puis après, ben, c'est clair, du 25 au 30, il y a ces trois bosses, dont la dernière qui est une belle bosse, hein.
Ouais, ouais.
Puis après, tu te dis, est-ce qu'il me reste encore de l'énergie? Tu veux relancer? Et puis, il reste plus grand chose pour relancer.
Ouais. Ouais. Ouais, exactement, ouais.
Mais voilà. Par contre, au niveau ambiance, ça, il faut le dire, c'était juste, j'ai trouvé incroyable. Moi, ouais, j'ai vraiment eu, là où j'ai eu du plaisir, c'était là où j'ai trouvé les gens vraiment top, quoi.
Il y a vraiment tout le long. Et puis quand on arrive sur Boston, ça devient vraiment la folie, hein.
Ouais, ouais, exactement.
Alors effectivement, c'est moins déprimant qu'un marathon où on court seul dans le vent. Hein. Ça porte un peu, même si on est complètement fracassé. Et donc du coup, bah t'arrives quand même à Boston, et puis tu passes la ligne d'arrivée au mental. Hein, tu l'as dit, ouais. T'es plus du tout dans l'objectif. tu visais 3h15. T'as fait un peu plus.
3h59. Ouais. Légèrement plus.
Ouais, ouais. Mais on va le dire tout de suite, ils sont peu nombreux. Je crois qu'il n'y en a même aucun, hein, du groupe dans lequel on était qui a atteint l'objectif qui s'était visé. Et il y en a peu qui l'ont même ne serait-ce qu'approché. Hein. C'était vraiment une journée très compliquée, souvent parce qu'il y a eu une sous-estimation de la difficulté du parcours déjà, globalement. Et en plus, par les conditions dont on a parlé de chaleur par rapport à celles dans lesquelles on s'est entraîné.
Oui, c'est juste. Puis on voit aussi que le premier professionnel home, il perd 6 minutes sur la deuxième partie, même lui qui est son métier, je trouve que c'est aussi beaucoup. Donc on voit quand même que c'était vraiment pas évident.
Oui, oui, oui. Exact. Et puis alors, Steve, nous, on a voyagé ensemble avant d'aller là-bas. Je t'ai vu passablement malade, en tout cas, avec quelques petits symptômes de grippe ou je ne sais quoi en arrivant là-bas. Donc, tu ne prends pas forcément le départ de cette course dans les meilleures conditions.
Non, effectivement, là, on a pris l'avion le vendredi. J'ai malheureusement chopé, je pense, je ne sais encore pas ce que c'est, parce que même aujourd'hui, je ne suis encore pas complètement remis. Mais peut-être une grippe, une crève. Donc, ça a commencé le mercredi. Le vendredi matin, je me lève avec un peu de fièvre. Donc, je craignais un petit peu le voyage. Donc, ça n'a pas été très agréable, surtout à l'atterrissage. Quand tu as les oreilles bouchées, ça fait mal un peu à la tête. Mais en dehors de ça, ça s'est bien passé. Mais après, si on parle, bah, effectivement, je pense que le résultat que j'ai pas atteint, ben, dépend de différentes choses. Effectivement, le fait que j'étais malade, ben, ça c'est évident que c'est une des raisons. Mais si on reprend un peu la chaleur, c'est vrai, quand on a fait le briefing avec notre coach Olivier, qui disait qu'on aurait vraiment des super conditions. Alors, les conditions au niveau soleil et sec, c'était vraiment super. Moi, je pense que j'ai quand même préféré, même si c'est pas... Moi, la chaleur, j'en souffre beaucoup, mais c'est vrai que j'étais assez content d'avoir au moins des conditions sèches et au soleil. Mais je crois qu'Olivier, à la fin de la course, il a quand même reconnu que les conditions n'étaient pas si idéales que ça, parce qu'il a quand même fait plus chaud que prévu. Mais effectivement, si Mathieu parlait de crampes, alors moi, j'ai pas eu de crampes, mais j'ai vu sur la fin de la course, ou même à la fin de la course, quand tu regardes les shorts et les t-shirts de la plupart des couleurs, des coureurs, pardon, qui ont des traces de sel. Ben, c'est là qu'on se dit qu'on s'est vraiment déshydraté pendant tout le parcours. Et puis, heureusement qu'au niveau ravito, ben, c'était quand même bien organisé, qu'il y avait des ravitos tous les miles, dans tous les 1,6 km. Et moi, je crois que, ben, comme Mathieu et comme toi, Greg, moi, j'ai bu quelque chose à chaque ravitaillement, ce qui est quand même assez rare sur un marathon. Généralement, tu t'alimentes ou tu bois quelque chose entre 3 et 5 kilos, on va dire, mais pas tous les miles. Et après, au niveau parcours, ben, je pense que si je, Alors, j'allais dire si je devais le refaire, mais je pense que je le referai jamais. Mais c'est clairement un marathon. Tu peux t'entraîner en faisant du trail pour un parcours pareil. C'était clairement, c'était tout le temps vallonné. Donc je m'attendais vraiment à pas du tout un parcours pareil. Et puis c'était vraiment casse-pâte. Même si ça s'est relativement bien passé jusqu'au 26-28e. Et puis après, j'ai eu un. On parle souvent du mur dans le marathon, mais là, c'est pas un mur que j'ai chopé. C'est le moteur qui s'est éteint. Et puis j'ai fini, j'ai fini au mental comme tout le monde, quoi.
Ouais. Et puis, objectif par rapport à ton temps final?
Alors je savais que manque de prépa, plutôt malade, les conditions chaleur qui me conviennent pas. Donc c'est vrai que je gardais un objectif sous les 4 heures. J'ai fait 4h16. Le principal, c'est d'être arrivé au bout, d'avoir pu cocher Boston. Mais voilà, en termes de chrono, c'est mon moins bon chrono sur marathon. Donc non, je suis pas satisfait de mon chrono, mais super heureux et content d'être arrivé au bout.
Mais réaliste par rapport à ton objectif quand même, parce que, entre 4h et 4h16, c'est un ratio qui est beaucoup plus proche que Mathieu qui voulait faire 3h15, qui fait 3h59, ou moi par exemple, qui visait 3h30 et 3h40, puis qui va à 4h05. Donc, c'est quand même plus proche de ce que tu visais. Donc, Des ambitions à la hauteur des possibilités pour toi, Steve, alors que nous, on a rêvé gros avec Mathieu et les autres. Moi, je voulais revenir juste sur ce parcours. Moi, ce qui m'a le plus frappé, il y a deux trucs qui m'ont vraiment marqué pendant que je courais. Je me suis dit, mais quelle misère. Un, impossible de prendre son rythme. Et donc, t'es soit en train de descendre, soit en train de monter, soit en train de descendre, soit en train de monter, mais jamais tu peux te poser en te disant là, pendant 5 kilomètres, je déroule, je mets une allure, puis je maintiens. Et l'autre truc, c'est la première partie, qui est censée être plus facile parce qu'elle est en descente, elle m'a pété les quadriceps parce que je ne m'étais pas entraîné en mode trail à faire de la descente en mode agressif. Quand j'ai vu le parcours, j'ai vu le profil, je me suis dit, il y a des côtes, il va falloir un peu faire de force. Je suis allé en forêt dans les côtes derrière chez moi. Pourtant, ça manque pas dans le Jura de belles montées, de belles côtes que tu peux faire des répétitions dedans. Et j'ai fait ça à bloc, 5, 6, 8, 10 fois certaines montées. Et puis, je faisais la descente tranquille. Mais ça, c'était l'erreur, quoi. Il fallait faire les descentes aussi un peu à fond parce que sur ce marathon, tu as des côtes quand même que tu descends qui sont importantes et qui te cassent de la fibre presque comme en descente de trail. Moi, j'ai fini au kilomètre 32-33 avec les quadris morts. Et ça, c'était les descentes.
C'est juste.
Et puis, comme vous, complètement déshydraté à l'arrivée, je me ravitaillais sur les ravitaux tous les miles, je m'aspergeais d'eau, j'essayais de me rafraîchir comme je pouvais. Je fais très, très rarement des crampes. J'ai rarement fait des crampes, même sur mes marathons d'Ironman. Et là, à partir du kilomètre 32-34, le mollet à droite, les deux quadris... tu dois vraiment ralentir la cadence pour pas que ça vienne cramper, quoi.
Même mon épouse Céline, qui a jamais de crampes, j'avais mis des pilules de sel, elle était contente de les avoir avec. Elle a jamais pris de sel sur marathon, puis là, elle en a pris. Donc, c'est vraiment que la chaleur, on en a bien souffert, et puis du profil de la course qui était compliqué. Steve, on était à Amsterdam aussi ensemble. Je pense qu'on peut pas parler du même marathon. C'était beaucoup beaucoup plus facile.
Ouais, c'est clair. En tout cas, en termes de parcours, beaucoup plus plat et roulant, et où on avait vraiment un super rythme. Ouais. Après, par contre, au niveau météo, on a bien morflé parce qu'on a eu les 4 saisons sur le marathon avec de la grêle, de la pluie, du vent, du soleil.
Mais je crois que je préfère quand même ça.
Ouais. Je suis d'accord avec toi que 42 kilos sous le soleil, c'est quand même compliqué.
C'est vrai.
Et après, juste pour rebondir aussi sur l'ambiance dont tu mentionnais, Mathieu, effectivement, je craignais un peu, vu le départ qui était vraiment à l'extérieur de la ville, je me suis dit peut-être qu'au début, on n'aura peut-être pas grand monde, on va peut-être traverser des quartiers ou des petits villages où il n'y aura personne. Mais non, super, super ambiance tout le long, vraiment des gens au bord de la route. Ça aide quand même, ça aide à rester motivé, avoir quand même la banane, parce que chaque applaudissement et cri de tout ce public, c'est quand même motivant et ça aide à avancer du mieux qu'on peut.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai, ça porte. Hein. Ça porte. Et puis quand tu es dans une telle galère sur ce marathon, moi, à un moment, je me suis dit, j'étais au kilomètre 37, peut-être, il me restait genre 5 kilomètres à faire. Je me dis, si j'abandonne maintenant et qu'un jour dans ma vie, je veux faire les six majors, eh ben, je vais devoir revenir sur cet enfer de parcours. Et donc ça, ça te motive aussi à aller au bout puis te dire ça, c'est un truc qui est fait. Et puis je suis vraiment pas certain que je referai Boston un jour. Je suis bien content de l'avoir terminé. Et probablement que mon personal best sur ce parcours-là restera celui de il y a deux semaines.
Ah, je crois aussi.
Pareil pour moi. Pareil pour moi.
Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Si vous deviez donner maintenant un conseil à une personne qui vise de faire Boston, par exemple l'année prochaine, un seul conseil que vous devez donner, Steve, ce serait.
Alors par rapport au parcours, d'avoir un entraînement adapté au parcours de Boston, et puis effectivement faire de la puissance en montée, et puis également travailler le. Casser de la fibre pour préparer les quadris à ce parcours. Quoi.
Moi et toi, Mathieu ?
Moi, la même chose. Ouais. Exactement la même chose. Vu que la météo, tu ne peux pas trop la prévoir.
Non, ça c'est sûr.
Donc au moins ça, tu peux le prévoir et puis je pense que ça peut vraiment aider. Quoi.
Mmh. Ouais. Bien. Du coup, j'imagine que vous allez continuer à courir des marathons vu les objectifs que vous aviez au départ. Tous les deux, vous visez les six majors. Alors, on l'a dit, hein, c'est super compliqué d'avoir des dossards pour Tokyo. Mais je vous souhaite d'en trouver. Vous avez d'autres courses que Tokyo. Toi, Steve, il y a aussi Chicago qu'il va falloir viser un moment ou un autre.
Alors oui, effectivement, là, il m'en reste deux sur les six. Chicago, j'avais plutôt dans l'idée de ne pas refaire un marathon cette année et surtout de retourner encore une fois aux États-Unis. Mais j'ai quand même posé la question à Tourisme pour tous s'il y avait encore de la place pour Chicago cette année.
Alors,
elle m'a dit que c'était complet et je suis premier sur la liste d'attente.
Ok.
Si quelqu'un se désiste, je vais certainement me refaire une réflexion.
On va évidemment souhaiter de blessures ou de pépins à personne, mais voilà, pourquoi pas aller chercher ce cinquième déjà cette année.
Oui.
Et toi, Mathieu, des autres objectifs ?
Alors moi, je pense que je vais faire j'aime bien faire du trail aussi. Donc en juin, début juillet, je vais faire un trail l'Ultrax à Villars, le 31-32 kills. Je vais pas faire le plus grand. Ouais. Et puis après, je vais essayer d'aller vraiment chercher mon chrono que je voulais. Mais je pense peut-être sur Malaga, San Sebastian ou bien peut-être Francfort. Je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir à ça.
Ouais, c'est une réflexion qu'on se faisait aussi. Hein. Si on cherche vraiment le personal best sur marathon, je suis pas sûr que ces majors avec 30 ou 50 000 personnes au départ, ce soient les bons plans. Parce qu'il y a une logistique au départ qui est quand même importante. Il y a quand même un stress par rapport à ces courses. Une expo qui est longue le jour avant où il faut quand même rester debout longtemps, etc. Se rendre au départ, c'est compliqué. Donc, c'est tout ça, c'est pas des conditions optimales dès la ligne de départ pour aller faire un résultat optimal.
Et d'ailleurs, je vais pas dire que j'ai pris une décision définitive, mais elle est presque. Si j'arrive à avoir un dossard pour Tokyo, on va courir les deux avec Céline. Et puis, je vais courir avec elle. Je vais vraiment prendre du plaisir avec elle. Ouais. Et puis, aller chercher cette médaille ensemble. Et puis, je m'en fous du temps. Et puis, c'est le plus important.
Ouais, non, t'as raison. Et puis éventuellement, cette performance, aller la chercher sur un parcours où il y a un peu moins de monde. Ouais. Vraiment focusé sur la performance à un moment et puis
exactement
et puis, voilà exact ouais. Je vous souhaite tout ça.
Moi je vais quand même devoir caser un petit marathon au mois de juillet parce que je refais l'Ironman de Thun le 7 juillet.
Voilà, donc en plus de retour sur le parcours de Thun, donc les auditrices et auditeurs qui voudront en apprendre plus sur cette course, il y a un hors-série qui avait été publié dans le podcast de Nakan à l'époque et Steve était là avec nous pour enregistrer ce hors-série. Et du coup, bonne préparation Ironman. Je pense que ça ferait déjà une bonne base si, par hasard, tu devais récupérer un dossard pour Chicago plus tard dans... C'est début de l'automne, hein, Chicago, sauf erreur.
Ouais, en octobre, mi-octobre, je crois. Donc là, je pense que je serais prêt,
ouais. Ouais, exact. Bon. Plein de succès pour vos prochaines courses. Merci, messieurs, d'avoir accepté de venir parler un petit peu de ce marathon de Boston ici.
Merci à toi, Greg. Et...
Merci à toi.
Puis tout probablement que nos chemins vont se recroiser encore à l'occasion. Le monde de la course à pied est un petit monde, en particulier en Suisse romande. Donc, on on va être amené à se revoir.
C'est sûr, on va se revoir.
C'est cool.
Super, merci messieurs. Beaucoup.
Merci, tout de bon vous deux.
Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Juste avant de vous laisser, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez noter cet épisode du podcast ainsi que les autres sur votre plateforme préférée et puis laisser un petit commentaire, ce qui me permet de faire connaître un peu mieux le podcast Transition. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour l'épisode 4 de cette saison 2 du podcast. Et puis d'ici là, eh bien, entraînez-vous bien, faites du sport et puis maintenez-vous en forme. Et nous, on se retrouve très très bientôt.